بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Le sujet traité aujourd'hui et dans les prochains audios est celui des questions contemporaines sur le jeûne. C'est-à-dire qu'il est question ici de parler des situations nouvelles sur lesquelles donc les savants qui nous ont précédés n'ont pas parlé, tout simplement parce qu'elles n'existaient pas, ou parce qu'elles existaient mais que la science et la médecine a évolué depuis le temps, et qu'il a donc fallu un nouvel effort de réflexion, un nouvel ijtihad, pour confirmer l'opinion de ces savants ou pour l'infirmer. Nous avons vu, par l'intermédiaire des précédents intervenants, qu'il y a unanimité entre les savants sur le fait que le jeûneur doit s'abstenir de manger, de boire et d'avoir toute forme de relation intime durant la journée de jeûne. Ceci dit, les savants ont divergé sur des questions qu'on appelle dans les fondements de la jurisprudence, dans Usul al-Fiqh, on appelle ça des questions non dites, ce qu'on appelle al-maskutu anha. Donc il y a des questions qui n'ont pas été traitées dans les textes religieux, des situations nouvelles qui n'étaient pas connues précédemment, ou des situations, comme nous l'avons dit, qui étaient connues précédemment, mais avec l'évolution de la médecine, eh bien il a fallu un nouvel effort de réflexion pour déterminer si ces choses-là font partie des annulatifs du jeûne ou n'en font pas partie. Par exemple, les savants divergent sur ce qui pénètre la cavité, l'intérieur du corps, al-jawf, mais qui n'est pas nutritif. Annule-t-il le jeûne ou non? Les savants divergent également sur ce qui pénètre à l'intérieur du corps, dans le jawf, mais qui ne passe pas par le conduit de la nourriture et de la boisson. Annule-t-il le jeûne ou non? Les savants divergent aussi sur ce qui pénètre par d'autres cavités du corps. Est-ce que ça annule le jeûne ou non? Etc. Donc il y a énormément de questions nouvelles sur ces annulatifs du jeûne qu'on essaiera donc de traiter durant donc cet audio et les prochains audios. Alors les savants ont deux visions concernant les annulatifs du jeûne. La première vision, donc, c'est celle de la majorité des savants qui se sont étendus sur les annulatifs du jeûne, et qui en ont cité énormément, à tel point que certains sont pratiquement arrivés à une cinquantaine d'annulatifs du jeûne, dans certains madhhab, dans certaines écoles de pensée. La deuxième vision chez les savants, c'est la vision d'une minorité de savants, c'est celle de restreindre les annulatifs du jeûne. Et cette vision-là donc a été suivie par l'imam al-Bukhari, par Ibn Hazm, par Ibn Taymiyyah, et parmi les contemporains, par le Cheikh Al-Uthaymin, par le Cheikh Al-Qardawi, et par beaucoup de conseils de fatwa contemporains. Alors ici, il serait judicieux, avant de rentrer dans les détails, de comprendre pourquoi les savants ont divergé. Quelles sont les causes de la divergence quant à ces questions contemporaines? Pourquoi les savants ont divergé? Alors ici, ce que je vais vous citer ici, a été cité, entre autres, par Ibn Rushd, dans son livre Bidayatul Mujtahid, et par d'autres savants contemporains dans leurs ouvrages. La première cause de la divergence sur ces annulatifs du jeûne, c'est la divergence sur un texte quant à son authenticité ou quant à sa signification. Donc à certains moments, les savants peuvent diverger sur certaines questions à cause de l'authenticité d'un texte, parce que certains le considèrent comme étant un texte authentique, prophétique, alors que d'autres le considèrent comme étant un texte faible, et donc un texte faible ne peut être utilisé dans les règles et dans la pratique religieuse, ou à certains moments les savants peuvent diverger aussi quant à la signification d'un texte. Et ça nous l'avons clairement vu dans l'intervention donc du frère Nourdin lorsqu'il a abordé la question de la hijama, de la saignée. Annule-t-elle le jeûne ou non? Et donc il avait expliqué qu'il y avait une divergence entre les savants, déjà sur l'authenticité du texte, mais aussi sur la signification et sur la manière de rassembler entre les textes. Deuxièmement, parmi les causes de la divergence, il y a cette question de savoir est-ce que l'interdiction de manger et de boire durant la journée de jeûne, est-ce qu'elle est restreinte à ce qui pénètre le corps par le conduit habituel, c'est-à-dire par le conduit bucopharyngal, donc la bouche, gorge, estomac, ou est-ce que cette interdiction-là de manger et de boire est absolue, c'est-à-dire quel que soit l'endroit par lequel elle pénètre notre corps. Voilà donc une deuxième question qui a été une cause de divergence entre les savants. La troisième cause de la divergence entre les savants, c'est l'interdiction de manger et de boire durant la journée de jeûne concerne-t-elle seulement ce qui est nutritif ou non? Et de là donc, il y a énormément de choses sur lesquelles les savants ont divergé quant à l'annulation ou pas du jeûne si l'individu les accomplit ou les effectue. Quatrième cause de la divergence, eh bien c'est la différence de vision de l'anatomie du corps entre les anciens savants et les savants contemporains. Et ça donc j'en avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu un progrès de la médecine. Et donc on a découvert des choses au niveau de la médecine qui aujourd'hui ont changé certains efforts de réflexion faits par les savants précédents. Et parmi les sujets sur lesquels il y a eu énormément de divergences entre les savants, c'est la définition de l'intérieur du corps, ce qu'on appelle dans la jurisprudence el-jawf. El-jawf. El-jawf, donc, c'est une cavité, l'intérieur du corps. Qu'est-ce qui est considéré comme étant une cavité el-jawf dans la jurisprudence ici du jeûne? Nous savons qu'au niveau médical, il y a plusieurs cavités dans le corps. Premièrement, il y a la cavité crânienne, donc celle qui contient le cerveau, les yeux et les oreilles. Il y a la cavité spinale, qui contient la moelle épinière. Il y a la cavité thoracique, qui contient donc les poumons et le cœur. Il y a la cavité abdominale, donc qui contient la rate, les reins et l'appareil digestif, c'est-à-dire estomac plus intestin. Et ensuite, il y a la cavité pelvienne, donc dans laquelle il y a vessie, anus et système reproducteur. Bien. Lorsque nous savons ça au niveau médical, eh bien nous devons savoir également que les savants ont divergé sur la définition de l'jawf, de l'intérieur du corps. Car ce qui annule le jeûne, c'est ce qui pénètre l'intérieur du corps. L'intérieur du corps, comme nous l'avons dit, c'est el-jawf. El-jawf, donc c'est la cavité. Seulement dans le corps, il y a plusieurs cavités. La cavité crânienne, la cavité spinale, la cavité thoracique, la cavité abdominale, la cavité pelvienne. Donc est-ce qu'on considérera que ce qui pénètre dans n'importe quelle cavité annule le jeûne ou non? D'où la nécessité de définir ce qu'est el-jawf, l'intérieur du corps, la cavité, par les savants. Mais là, il y a eu divergence entre les savants sur la définition de l'jawf. Donc l'jawf, je rappelle, l'intérieur du corps, la cavité. Et les avis des savants contemporains concernant la définition de l'jawf, on peut en citer deux principalement. Le premier avis, c'est que el-jawf, donc l'intérieur, la cavité, dont il est question ici dans le jeûne, c'est uniquement l'estomac. Le deuxième avis, c'est que la cavité el-jawf, l'intérieur du corps, c'est l'ensemble de l'appareil digestif. L'ensemble de l'appareil digestif. Donc on y compte dedans le pharynx, l'œsophage, l'estomac et l'intestin. Donc voilà les deux avis principaux des savants aujourd'hui concernant donc la définition de el-jawf. Donc nous avons à travers ce court exposé donné donc la vision des savants concernant les annulatifs du jeûne. Nous avons cité les causes de la divergence entre les savants sur ces annulatifs. Et nous allons donc dès le prochain audio commencer donc à énumérer des actes qui sont sujets à divergence entre les savants, en nous basant principalement sur l'avis des savants contemporains et sur les études faites donc par les conseils de jurisprudence et les conseils de fatwa contemporains. J'aimerais ici, avant de clôturer donc ce premier audio, simplement prévenir qu'il ne s'agira absolument pas de traiter chacune de ces questions dans les détails, parce que chacune de ces questions nécessite en réalité une conférence pour pouvoir l'aborder de manière posée, avec les preuves, etc. Donc il s'agira simplement d'énumérer et de citer l'avis le plus probable sur la question, en nous basant, comme je l'ai dit précédemment, sur les études de conseil de jurisprudence contemporain, l'étude de conseil de fatwa, l'étude de savant contemporain sur la question, et en nous basant évidemment aussi sur l'avis du cheikh de notre mosquée, à savoir donc le cheikh Mohammed Al-Khayyat, hafizahullah. Voilà ce qu'on pouvait dire dans ce premier audio. Donc barakallahu fikum pour votre attention, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.